Sí. Mes chers amis,
Étienne sommes... Chouard est professeur d'informatique en BTS au lycée Marcel Pagnol à Marseille. Il a été en 2005, à travers Internet, l'un des acteurs déterminants du non au traité constitutionnel européen.
Eh bien, nous continuerons
la politique de la vie que j'entends.
Bonjour, quatrième chronique politique, à propos des institutions toujours. Sur la première chronique, je vous disais, méfiez-vous de la partie 1 du TCE. C'est la plus dangereuse, et c'est celle qu'ils vont essayer de faire passer de toute force. Malgré nous, en prétendant que c'est consensuel et c'est pas grave, c'est technique, alors que c'est la pire. Dans la deuxième, je vous expliquais, je suis sûr que c'est la bonne raison, c'est celle-là, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Si les institutions sont si mauvaises, et si notre impuissance politique est si criante, c'est parce que ceux-là même qui écrivent les règles sont intéressés à notre impuissance politique. Et finalement, pas honnête, mais c'est pas leur faute, c'est la nôtre, qui les laissons faire au moment d'écrire les institutions. Dans la troisième partie, je vous expliquais tout ce qu'on pourrait gagner à écrire nous-mêmes une constitution, toutes les institutions qui nous protègent, qui protégeraient nos médias, qui protégeraient l'initiative populaire, qui garantiraient la responsabilité des acteurs. C'était une chronique assez longue parce qu'il y aurait beaucoup de choses à écrire dans cette constitution qui ne seront jamais écrites tant que ce sont les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Et dans cette quatrième chronique aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de... Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Concrètement, comment on peut reprendre le contrôle? D'abord, il faut désigner une assemblée constituante. Et vous verrez, il y a des hommes politiques qui vont vous en parler. Ils vont vous dire, oui, il faut une constituante. Pas tous, hein. Il y en a qui veulent écrire les règles sans même qu'il y ait de constituante. Bon, cela, c'est vraiment des affreux, mais même ceux qui veulent désigner une constituante, faites attention à la façon dont on va la désigner, cette assemblée, vous allez voir. Cette assemblée, elle va écrire les règles du pouvoir et les limites des pouvoirs. Il faut donc que les gens qui constituent l'assemblée constituante, les gens qui vont siéger à l'assemblée constituante, doivent être désintéressé. C'est beaucoup plus important qu'il soit honnête plutôt qu'il soit compétent. La compétence dont on a besoin pour écrire une constitution, elle est relativement simple. Bon, il faut y réfléchir, il faut avoir accepté d'y passer un moment, mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour écrire une bonne constitution. Par contre, il faut être honnête. Et si vous avez quelqu'un de très compétent et qui est malhonnête, ben vous êtes dans de sales draps. Alors comment on fait pour avoir une assemblée constituante honnête? Il faut déjà prioritairement, évidemment, que les membres de la constituante soient inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes. Ça paraît le plus élémentaire bon sens, il ne faut pas que les gens écrivent les règles pour eux-mêmes. Donc il faut déclarer les membres de l'assemblée constituante inéligibles. Si vous les laissez faire, eux ne se déclareront jamais inéligibles. Il faut que ce soit celui qui convoque l'Assemblée constituante. En France, ce serait par exemple le président de la République, après avoir fait voter un référendum sur la question, en disant « alors, on l'a fait cette constituante, et si on lui dit oui, il déclare inéligibles les membres qui vont constituer l'Assemblée ». Mais ça ne suffit pas. La modalité de désignation de la constituante qu'on va vous proposer partout et qui est piégeuse, je crois, je vais vous expliquer pourquoi, c'est l'élection. Si on élit l'Assemblée constituante, c'est cuit. C'est cuit parce que les candidats à l'élection vont être soutenus par des partis et vont même être désignés par des commissions d'investiture, on dit, dans les partis. Et les partis sont des machines à conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir, conserver le pouvoir, c'est des machines à pouvoir, les partis. Et elles vont vous mettre comme candidat, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le deviner, elles vont vous mettre des hommes de pouvoir. Bon, s'ils sont inéligibles, les partis ne vont pas mettre les prochains, mais elles vont mettre les suivants, ou des amis, des hommes de paille. Il faut absolument arriver à trouver un mode de désignation de l'Assemblée constituante qui mette en place dans cette Assemblée des gens qui ne sont pas des hommes de pouvoir. Alors, il y a peut-être une autre solution, mais moi, je n'ai pas trouvé autre chose. Pour l'instant, la seule modalité fiable, plausible, crédible que j'ai trouvé, c'est le tirage au sort. Alors, c'est compliqué à apprivoiser l'idée. La première fois qu'on entend parler de tirage au sort, on se dit « Mais attends, c'est des bêtises, ça ne peut pas marcher. » Au premier abord, on a peur du tirage au sort parce qu'on n'a pas appris ça à l'école. Moi, on ne m'avait jamais parlé de ça, le tirage au sort. La première fois que j'ai commencé à lire là-dessus, j'y croyais pas. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que c'est une idée farfelue ?» Puis en fait, quand on y réfléchit, il ne faut pas longtemps, vous allez voir. Il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir que tous les inconvénients qui viennent à l'esprit au premier abord sur le tirage au sort, en fait, sont pas du tout rédhibitoires. On peut les faire disparaître complètement avec quelques modalités supplémentaires. Alors que le nombre de problèmes qu'on règle est absolument vertigineux. On règle pratiquement tous les problèmes de l'élection et de la mainmise des partis, de l'impuissance des gens. On règle quasiment tout grâce au tirage au sort. Le tirage au sort, c'est équitable et c'est incorruptible. C'est quand même des vraies qualités. Et alors, c'est pas le tirage au sort, c'est pas forcément débile, hein, ça peut être malin le tirage au sort, ça peut être parmi les volontaires déjà, ce qui élimine, les gens filtrent eux-mêmes, hein, ils savent qu'ils sont pas capables ou qu'ils n'ont pas envie, donc ils sont pas volontaires, déjà ça fait beaucoup de monde qui n'y seront pas. Et puis ça peut être aussi parmi des gens parrainés, ça peut être des volontaires parrainés par d'autres citoyens. Pas par des partis, évidemment, mais par des citoyens. Et puis, il y a une autre idée qui m'est venue et qui est vraiment séduisante, quand même. Et ne comptez pas sur les hommes politiques pour défendre cette idée. Hein. Il faut qu'on en parle entre nous, citoyens, et puis c'est tout ce qu'on aura à notre disposition pour que l'idée se répande, parce que ce n'est pas les hommes politiques qui vont se faire l'avocat de ce dont je vais vous parler maintenant. Mais imaginez une élection sans candidat. Imaginez que chacun d'entre nous puisse dire moi je voudrais que autour de moi je connais 2, 3, 5 personnes valeureuses, je les trouve valeureux, je les trouve pondérés, plutôt calmes, plutôt honnêtes, qui réfléchissent pas mal, qui ont une culture intéressante et qui seraient bien pour réfléchir à une constitution. J'en connais comme ça 3 ou 4 autour de moi. Bon, à chacun d'entre nous, on en connaît quelques-uns et on les désignerait. Ils ne sont même pas au courant qu'on les désigne, ou ils le sont ou pas, peu importe, mais on les désigne. Et comme ça, chacun des 40 millions d'électeurs désigne 2, 3, 4, 5 personnes valeureuses. On va se retrouver à la tête de dizaines de milliers de personnes désignées par d'autres comme étant valeureuses sans avoir cherché à avoir le pouvoir. Ces gens-là, peut-être, parfois vont refuser, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais ceux qui vont accepter seront déclarés par d'autres valeureux sans l'avoir cherché. Mais ça a un goût formidable, ça, on n'a jamais connu ça. Donc pour l'instant, regardez les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens qui ont pour seul titre le fait d'avoir, de s'être auto-proclamé aptes. C'est eux qui ont décidé qu'ils étaient aptes, qu'ils voulaient le pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils sont aptes au pouvoir? Qu'est-ce qui garantit que quelqu'un qui est candidat au pouvoir est apte à l'être? La garantie est bien mince. Hein. Alors que là, vous avez les autres citoyens qui ont dit « Lui, je le connais depuis longtemps, ou je le connais, et il me semble valeureux. » Et c'est parmi tous ces gens-là qui ont été déclarés valeureux, ce que j'appelle des élus non candidats, c'est parmi ceux-là qu'on tirerait au sort. On tirerait au sort soit parmi les meilleurs de ceux-là, ceux qui ont été désignés le plus souvent, soit on tirerait au sort parmi tous ceux qui ont été désignés. Ou bien, encore une autre modalité, et toutes ces modalités sont complètement inédites, hein, et elles ne seront jamais défendues par les hommes politiques de métier, hein, les hommes de parti. Mais il y a une autre modalité qui consisterait, et je crois qu'ils ont fait comme ça au moment de la Révolution française pendant un moment, parce que pendant la Révolution française, il n'y avait pas de candidat, c'était très mal vu d'être candidat et d'être fait partie des partis. Des partis politiques étaient appelés des factions. Ceux qui faisaient partie des partis s'appelaient des factieux, et on les raccourcissait, ces gens-là. Les temps ont bien changé depuis. Mais à cette époque-là, je crois qu'il, pour élire des non-candidats, il fallait beaucoup de tours. Il fallait 5, 6, 10 tours. Donc c'est plus long. Mais au bout du compte, vous tombez sur des gens qui ont été désignés par les autres sans avoir été autoproclamés, sans s'être autoproclamés aptes. Ça paraît bien meilleur, en tout cas. En tout cas, une assemblée constituante qui serait soit tirée au sort parmi les volontaires, soit tirée au sort parmi les élus non-candidats, soit élue parmi les non-candidats avec de multiples tours, une assemblée constituante ainsi désignée et dont les membres seraient déclarés absolument inéligibles aux fonctions qu'ils instituent eux-mêmes. Cette assemblée, elle va vous écrire des règles comme vous n'avez jamais vu. Cette assemblée, simplement parce qu'elle est constituée de gens honnêtes, désintéressés, elle va vous écrire la première démocratie, les institutions de la première démocratie. Ce n'est pas la 6e République, ce sera la première démocratie. C'était la dernière des quatre chroniques. Il pourrait y avoir une cinquième chronique qui serait pas directement liée aux institutions, mais qui évoquerait le cas de l'Internet et le fait qu'Internet peut nous permettre de sauver nos institutions, mais les remplacera jamais. Ça pourrait être la cinquième chronique.
C'était Étienne Chouard, une chronique à suivre la semaine prochaine, même jour, même heure, mêmes ondes.